Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto.
Et Aude Vernuccio pour le journal. Bonsoir Aude.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
À la une ce soir, un petit air de revanche. La France affronte le Portugal et c'est du football.
Au coup d'envoi à 21h, on ira à Budapest dès le début de ce journal. Une soirée test dans les discothèques ce samedi, avis aux fêtards vaccinés. Et puis la mésaventure de deux candidats aux élections départementales. Ils se sont trompés de date pour le dépôt des listes.
RTL Soir.
Les Français sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, mais pas question de se reposer sur ses lauriers. Les Bleus affrontent le Portugal ce soir. Objectif, obtenir la première place de leur groupe. La fin de la phase de poule est souvent laborieuse, mais les Bleus n'ont pas trop le choix ce soir. Nicolas Georgerot, vous êtes dans le stade à Budapest.
Oui, c'est vrai, l'ultime étape avant l'envol pour la phase éliminatoire n'est pas toujours réussie. Sous l'air des champs, les Bleus n'ont jamais gagné. Par exemple, ce dernier match, la Coupe du Monde, l'Euro confondu, Équateur, Suisse, Danemark, récemment. C'était par moments davantage source de questionnements, d'inquiétudes que de garanties. Et c'est un adversaire plus relevé encore, cette fois le Portugal. Première place en jeu des Portugais qui, eux, ne sont pas encore qualifiés et qui peuvent même risquer l'élimination. Il faut s'inspirer du passé, comme en 2006, lorsque les Bleus, avec un Zidane buteur sur pénalty et qui fête ses 49 ans aujourd'hui, avaient sorti en demi-finale du Mondial le Portugal de Cristiano Ronaldo, âgé de 21 ans à l'époque. L'attaquant de la Juventus sera là une nouvelle fois tout à l'heure. Les deux sélections vont arriver dans une poignée de minutes et les champions du monde où sont pressentis Koundé, Tolisso dans le 11 de départ auront du soutien. 7500 supporters tricolores dans les tribunes de la Puskás Arena.
Nicolas Georgerot en direct de Budapest pour RTL. Comme un air de revanche du côté des supporters des Bleus après la défaite de l'Euro en 2016. Côté portugais, c'est la qualification en huitième de finale qui est en jeu ce soir et ils y croient, les supporters. Gauthier Delon-Bugard, vous êtes dans un restaurant portugais du 15e arrondissement de Paris.
Effectivement, et on a un gros nounours avec le maillot portugais à l'entrée qui nous accueille avec du gel hydroalcoolique, des drapeaux du Portugal un peu partout, la télé portugaise même. On est clairement avec des supporters portugais et le gérant de cet établissement. Bonjour José Martins.
Bonjour.
Vous avez mis un maillot symbolique là ce soir.
Oui, oui, c'est le maillot qui nous a apporté la victoire de 2016.
La victoire face à la France, pour nous c'est un mauvais souvenir.
Voilà, oui, mais pour nous c'est un bon souvenir et j'espère qu'on va garder ce titre. Donc encore une victoire, je ne donne pas de score, mais j'espère que la victoire il sera vers le pour nous, pour le Portugal.
Oui, il va falloir vous qualifier quand même pour les huitièmes de finale, donc pour vous qualifier c'est en gagnant. Il y a aussi Hervé et Audrey avec moi qui eux sont deux supporters français. Vous allez vivre une soirée pro-français, vous êtes des supporters français au milieu des supporters portugais.
Ben justement, c'est ce qui est sympa, le partage et l'échange et une ambiance différente. On peut voir que tout le monde s'entend comme ça, le meilleur gagnera de toute façon. Donc.
Qui va gagner alors Audrey?
La France, évidemment. Évidemment, il faut absolument gagner pour avoir après un bon adversaire en huitième de finale.
Et peu importe si vous éliminez le Portugal, je vois, il y a des Portugais partout, là, peu importe.
Mais non, il n'y a pas de problème. Ils vont être qualifiés aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Et de toute manière, on est aussi bien ensemble, Portugal-France, donc j'ai confiance.
Bon, un peu de fraternité, pourquoi pas un match nul, hein. Au moins tout le monde serait content ici.
Ah non, pas de match nul, hein. Pas de match nul, on ne veut pas affronter l'Angleterre après. Hein.
Voilà, bon, on va vous faire vivre en tout cas la soirée dans ce restaurant, toute la soirée football ici sur RTL.
Merci Gauthier Delon-Bugard pour RTL. Et puis oui, les meilleurs gagneront, ce sera très bien comme ça. Coup d'envoi du match à 21h, rendez-vous dès 20h pour RTL Foot spécial Euro qui sera présenté par Eric Silvestro. Et puis autre match à suivre hein, dans la même poule, c'est Allemagne-Hongrie.
Partons maintenant à Tokyo, les Jeux Olympiques, c'est dans un mois pile, le compte à rebours est lancé. Le protocole sanitaire vient d'être dévoilé pour les spectateurs. Règles très strictes pour résumer. Jauge réduite de moitié en tribune, pas d'autographe et pas d'alcool, Philippe Dova.
Oui, des directives on ne peut plus strictes pour tenter de rassurer la population et l'ambiance ne sera pas à la fête. Hors de question pour le public de manifester le moindre signe d'enthousiasme, interdiction de crier, d'encourager bruyamment les sportifs, de s'étreindre ou s'embrasser, de se taper dans les mains entre supporters, d'approcher les athlètes pour un selfie ou un autographe, contrôle de température et masque obligatoire dans les enceintes des sites olympiques, malgré la chaleur étouffante en été au Japon. La vente et la consommation d'alcool, même avec modération, seront prohibées, au grand désarroi de l'un des principaux sponsors de l'événement, la bière Asahi. Les spectateurs devront conserver les talons de leur billet pendant au moins 2 semaines et si une personne est testée positive, son numéro de siège sera publié en ligne. Enfin, à l'aller comme au retour, interdiction de s'arrêter entre son domicile et le stade. Pas de liesse populaire donc, mais pour les Japonais qui voudraient malgré tout célébrer la grande fête mondiale du sport, le Premier ministre Suga leur a donné la solution en les exhortant à regarder les Jeux chez eux, à la télévision.
Philippe Dova, correspondant d'RTL en Asie. En France, inquiétude dans les Landes, seul département à repasser au-dessus du seuil d'alerte. Les contaminations au variant Delta venu d'Inde représentent 70% des cas. Un EHPAD est particulièrement sous surveillance. 29 cas, dont 23 résidents à Ponton-sur-l'Adour. Jean Castex et le ministre de la Santé, Olivier Véran, se rendent demain sur place. Les chiffres nationaux bien plus encourageants. 1509 patients en réanimation ce soir. Le nombre de décès est également en baisse, 33 ces dernières 24 heures.
Le 9 juillet, vous pourrez retourner en boîte de nuit dans les discothèques et comme pour les concerts, il va y avoir une soirée de test pour réfléchir à comment tout ça va se passer. Ça se passera samedi.
Oui, deux boîtes de nuit vont être transformées en laboratoire avec 4400 participants, dont 2200 fêtards. Et l'expérience est baptisée « Reviens la nuit ». Seule condition, Odile Pouget, être totalement vaccinée.
Oui, avec les deux doses ou une seule si on a été infecté, le tout depuis au moins deux semaines, puisqu'il s'agit d'obtenir des informations sur la transmission du virus entre personnes vaccinées. Première étude au monde. C'est d'ailleurs pour cela que s'il y a des participants testés positifs après leur prélèvement salivaire, avant la soirée, eh bien ils ne seront pas exclus. Objectif, prouver que la vaccination protège, même si on fait la fête toute la nuit dans un endroit clos, chaud, humide, même si à cause de la musique on parle fort, on postillonne, même si on trinque entre amis puisque les bars seront ouverts. Hormis cette obligation de vaccination, une soirée comme dans la vie d'avant, pas de masque, pas de distanciation, c'est mieux pour danser, et une jauge pleine, deux groupes constitués par tirage au sort, dont un groupe qui n'ira pas en boîte et servira de référence. Résultat de cette expérimentation menée par le CNRS et la PHP, fin juillet début août.
Odile Pouget.
C'est dur pour le groupe qui est puni, hein, qui ira pas. Ce soir, tu sors, mais tu sors pas.
Avis donc aux Parisiens vaccinés. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site revientlanuit.org.
Revientlanuit.org. Petite pause et dans un instant, on prend des nouvelles des salariés de la fonderie de Saint-Claude au lendemain du coup de massue qu'ils ont reçu sur la tête, la liquidation judiciaire.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Otto.
19h09, suite du journal Aude Vernuccio. Nous sommes au lendemain de la décision du tribunal de commerce et les 270 employés de la fonderie MBF sont toujours sonnés.
Le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire du site de Saint-Claude dans le Jura. Mais pas question de baisser les bras. Une assemblée générale a eu lieu cet après-midi dans l'usine. Les élus ont témoigné de leur soutien, notamment Olivier Brocard, conseiller municipal socialiste de Saint-Claude.
Ils sont fatigués, ils sont extrêmement impactés par la décision que le tribunal a rendue hier, dans un état psychologique difficile pour certains. Vraiment une compassion et un sentiment de tristesse pour eux. Grand désarroi aussi, parce que une décision comme celle-là, quand on met fin à l'activité du premier employeur privé de la ville, ce sont des conséquences humaines, des conséquences économiques, des conséquences sociales, bien sûr. Et puis, je dirais un sentiment de colère aussi. Parce que on entend beaucoup parler de réindustrialisation, on entend beaucoup parler de souveraineté industrielle, et on entend beaucoup de paroles et on voit assez peu d'actes. MBF et les salariés n'ont à ce stade pas ressenti le soutien de l'État, c'est clair.
Des propos recueillis par Frédéric Perruche pour RTL. À Beauvais, dans l'Oise, le corps de l'adolescent de 17 ans porté disparu a été retrouvé par les équipes de plongeurs. Le jeune homme aurait chuté soudainement dans la rivière Terrain, grossie par les orages. Il avait passé son oral du bac le matin même et rejoignait des amis pour la fête de la musique lundi soir.
19h11, un candidat aux élections départementales a eu le nez creux. Enfin, non, pas vraiment. Il a déposé sa liste trop tard. C'est pas de bol, comme on dit.
Oui, un binôme d'hiver gauche, Vincent Coll et Florence très visant dans l'Aisne. Ils sont arrivés en tête au premier tour dans le canton de Ribemont. Mais c'était sans compter un petit détail. Contrairement aux listes régionales, dont la limite était fixée hier soir 18h, les listes départementales devaient être clôturées, elles, lundi soir.
Aïe.
Problème de mail, explique Florence Trévisan, dépitée.
Je ne l'avais pas, moi, ce mail. Je ne l'ai pas eu. Il n'y a qu'un seul des binômes qui a eu ce mail et qui, malheureusement, ce mail est tombé dans les spams. Complètement, c'est rageant. On peut pas ne pas s'en vouloir. Je vous assure qu'on est dans une colère, mais c'est voilà. Après, je comprends. Hein, on nous dit la loi. Alors je sais. Hein, on est des petits élus. des petits élus du département. Enfin, voilà, on a tapé à toutes les portes, personne ne veut rien entendre. Alors voilà, on nous explique que ben il arrive à certaines élections que des candidats se retirent sur une élection départementale avec 300 voix d'avance. Croyez-vous qu'en étant premier, on se retire? Ah ben, pour les électeurs, je vous assure qu'on est foudroyés, terrassés. Les maires qui nous ont soutenus nous disent aujourd'hui que de toute façon, soit ils n'iront pas voter, soit ils voteront blanc. C'est horrible.
Des propos recueillis par Vincent Serrano pour RTL. Un deuxième cas a été signalé en Aveyron. Le maire de Marcillac, Jean-Philippe Perrier, ne pourra pas non plus se présenter dimanche prochain.
C'est fou. Merci beaucoup, Aude.
En football, on vous répète deux matchs de l'Euro qui sont en cours quand même. Suède-Pologne, les Suédois mènent 1-0. Et Slovaquie-Espagne, 2-0 pour les Espagnols.
Alors, je recommence. Merci beaucoup, Aude. On passe à la météo. Avec vous, Peggy. Bon, demain, ça se dégrade encore.
Oui, encore des orages. Mais on a quand même de bonnes nouvelles. Et je vais commencer par positif, histoire de changer un petit peu, parce que c'est vrai que depuis plusieurs jours, on se répète sur les orages. Le positif, c'est que on a un retour d'un temps plus lumineux et sec, sans orages sur le nord-ouest. Alors, dès le matin, entre la Bretagne, la Normandie, le Pas-de-Calais, le soleil gagnera au fil des heures les pays de la Loire et l'Île-de-France l'après-midi. Et puis, le soleil également va dominer sur les côtes de la Méditerranée toute la journée. Ailleurs, vous l'avez compris, entre le sud-ouest et les frontières de l'est, encore un temps maussade avec des averses, des orages qu'on retrouvera dès le matin entre le massif central et le nord-est. Dans l'après-midi, du sud-ouest aux frontières de l'est. Alors, les régions entre l'Alsace-Lorraine, la Franche-Comté, le Rhône-Alpes et Rhône-Alpes seront plus fortement touchées avec de violents orages et de la grêle localement. Donc, soyez extrêmement vigilants. Côté température, on se couvre le matin, ça restera frisqué pour la saison, sauf près de la Méditerranée évidemment, de 9 à Brest à 20 à Nice, 13 à Paris et Toulouse, 16 à Lyon. Les maximales seront encore sous les normales, 18 à Cherbourg, 19 à Nevers, 20 degrés à Ambérieu et Tarbes, 21 à Paris, 22 à Agen, 23 à Strasbourg, 27 à Toulon, 28 à Nîmes. Et je rappelle que le département de l'Eure est toujours en vigilance orange cru.
Alors ça c'est pour jeudi, mais on va parler de vendredi et de la suite. Alors là, organisez ou réorganisez votre vendredi, parce que c'est l'éclaircie, ça y est,
ça s'arrange. Exactement, du sud-ouest au nord-est, là où il y a les orages en ce moment, eh bien, on oublie. Retour des éclaircies, ça va faire du bien. Plein soleil toujours près de la Méditerranée, juste quelques averses sur la façade est l'après-midi. Et un temps plus nuageux sur le nord-ouest avec l'arrivée d'une perturbation par le Finistère. Cette perturbation qu'on retrouvera samedi, donc avec quelques averses sur le nord-ouest. Et plus on ira vers le sud, plus les éclaircies seront belles. Allez, une averse orageuse possible sur les Pyrénées. Et entre dimanche et le milieu de semaine prochaine, on devrait avoir du soleil avec une évolution orageuse dans l'après-midi sur l'ensemble du pays. Tout ça reste à confirmer. L'indice de confiance n'est que de 2 sur 5.
Donc on 2 sur 5, ça veut dire on n'en sait pas grand-chose. En fait.
Donc on en reparlera. Voilà.
C'est ça que ça s'appelle, on en reparlera.
Ne prévoyez rien.
Ça s'appelle ne criez pas sur Peggy, ça veut dire qu'il va faire beau et qu'il pleut.
Je dis juste que ça reste à confirmer parce que c'est vrai que ça peut changer. Par contre, une chose est sûre, les températures vont grimper au fur et à mesure.
Vous voulez pas qu'on fasse la météo de la veille, c'est plus simple pour vous, non?
Non, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va plus avoir froid.
Mais voilà, 24, 25, là, parce que là, on a froid.
C'est parce que là, sur mon scooter, j'ai remis une petite écharpe, moi.
Bah, évidemment, je suis entièrement d'accord avec vous, on est 4 à 5 degrés en dessous des normales. Donc 24, 25 au nord, 28, 29 au sud, on va passer au-dessus. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Peut-être. Merci beaucoup, merci Peggy.